Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père, en son Fils Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacun, chacune pour ce temps de culte, marqué à nouveau par le temps du reconfinement. Aujourd'hui, c'est notre dernier culte en présentiel, selon la formule consacrée. Alors merci de respecter, et nous savons que vous le faites, scrupuleusement les gestes barrières et la distanciation physique. En ce 1er novembre, le dimanche donc le plus proche du 31 octobre, nous fêtons la Réformation, dont le culte régional a été célébré hier soir en visioconférence. Une fête très modeste, où l'on se souvient du jour où le moine Martin Luther a affiché, le 31 octobre 1517, 95 thèses pour faire réfléchir l'Église de son époque. C'était le coup d'envoi de la Réforme qui a donné naissance au protestantisme. La Réforme remettait au centre de la foi chrétienne la lecture de la Bible. Mais en ce 1er novembre, ce culte sera dédié aux familles endeuillées ayant perdu un proche pendant cette année. Et nous sommes ensemble pour recevoir la parole afin qu'elle nous réconforte aux jours d'épuisement, qu'elle nous remette en route les jours de lassitude, afin qu'elle nous rende audacieux dans les jours où il faut combattre et très reconnaissant lorsque nous sommes heureux. Pour commencer ce culte, voici un texte que je voudrais partager avec vous en ces temps incertains et sombres. Je l'ai emprunté à l'abbé Pierre et en ce premier dimanche consacré à l'entraide, je trouvais que c'était un petit clin d'œil. L'abbé Pierre écrit ceci: « Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. Et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Nous nous réunissons maintenant dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret inséré au début du psautier et qui s'intitule « Bénissons Dieu le seul Sauveur ». Je vous invite à vous lever.
Nous louons Dieu, nous bénissons notre Seigneur. Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Que mes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent par leur chemin, que mes lèvres te bénissent à travers leurs chants, que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière, que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix, que ma mémoire te rende grâce en rappelant tes délivrances, que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse, que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne, que mon cœur te loue en aimant de ton amour, que ma force te loue en s'offrant à toi, que mon corps demeure de ton esprit, te loue sans cesse, que tout en moi te rende gloire. Et je vous invite à chanter ensemble le psaume 42 comme un cerf altéré brame.
Dans l'évangile de Marc, il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le grand et le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Nous restons à nos places et nous chantons le répond. Parle, parle Seigneur, ton serviteur écoute.
Nous nous présentons devant le Seigneur avec cette prière de Martin Luther. Mon Dieu, permets que je demeure ferme dans la foi et que je ne cède pas au doute, non pas parce que ma prière est bonne, mais parce que toi, tu es la vérité. Ô Père, encourage et fortifie par ta sainte parole l'homme faible que je suis. J'ai souvent de la peine à accepter ta volonté pour moi. Donne-moi la force, Père, d'être obéissant pour ne pas succomber à la tristesse. Enseigne-moi, ô Père, à ne pas me confier en moi-même ou en mes belles entreprises, mais à tout attendre de ton infatigable bonté. Que la tristesse de vivre, souvent en désaccord avec ta volonté, ne me submerge pas, mais plutôt que ta miséricorde s'étende à toute ma vie et la fertilise. Père céleste, nous te recommandons tous ceux qui s'efforcent de triompher de leurs angoisses. Affermis ceux qui résistent encore et viens à nouveau en aide à ceux qui sont tentés. Ô bon Père céleste, je viens à toi et je te supplie de me pardonner, non parce que je suis devant toi, non parce que je puis étaler devant toi mes propres mérites, mais parce que tu l'as promis par serment, en sorte que je n'ai pas le moindre doute quant à ta volonté de me pardonner et de m'accueillir. Amen.
Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Combien grande est ta gloire!
Amen.
Nous partageons maintenant une confession de foi en provenance de l'Église luthérienne du Canada. Nous croyons en Dieu qui a créé le monde, l'aime et lui sourit. Nous croyons en Jésus-Christ qui nous a révélé l'humanité de Dieu et un amour illimité et nous appelle à une vie épanouie que même la mort ne peut éteindre. Nous croyons au Saint-Esprit grâce auquel Dieu nous rejoint, nous surprend, nous remet en question et nous envoie. Cet Esprit Saint, souffle de vie créatrice et d'humour, nous nourrit et nous remplit d'espérance. Nous croyons en nous-mêmes en tant que communauté créée à l'image de Dieu, capable de créativité et de destruction, mais appelée à choisir entre les deux. Nous croyons qu'aujourd'hui, Christ nous conduit sur un chemin de vie qui peut sembler absurde à vue humaine. Nous croyons qu'il nous appelle à résister au mal, quel qu'il soit, y compris tout ce qui peut dégrader ou détruire autrui et le monde autour de nous. Nous croyons que nous sommes appelés à l'amour, la justice, la liberté et la paix. Amen. Grand. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Aujourd'hui, nous lirons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Mon joug est bon, et ma charge légère. Ta parole est la vérité. Conduis-nous. Sanctifie-nous, éclaire-nous par la vérité. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, je vous invite à prendre maintenant le cantique numéro 297. 297. Ô Dieu des grâces éternelles, nous chanterons les strophes 1, 2 et 4.
Je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions ensemble. Dieu notre Père, ta parole traverse le temps, traverse l'histoire, traverse nos vies, traçant des chemins de lumière. Par elle, nous ne sommes plus perdus au gré du vent, ballottés dans les agitations et les incertitudes du présent. Car nous croyons que nos racines profondes et notre destination dernière sont en toi, en ton esprit qui souffle sur le monde, du commencement jusqu'à la fin des temps. La grande souffrance des hommes, notre grande souffrance, c'est de t'avoir perdu ou de te perdre encore ou de fermer à ta voix nos portes intérieures, de sorte que nous sommes privés de mémoire et d'espoir. Mais ta parole, si nous savons l'entendre ou la garder, nous enracine dans les profondeurs du passé et lance vers l'avenir des passerelles d'espérance. Elle élargit nos cœurs et nos pensées en ouvrant nos vies à leur vraie dimension, leur vraie grandeur, leur vraie durée, celle de l'infini et de l'éternité. Dieu, notre Père, ouvre nos portes intérieures pour que passe au profond de nous ton souffle créateur. Amen. Amis, frères et sœurs, depuis quelques semaines, le monde s'emballe avec l'assassinat de ce professeur à Conflans-Sainte-Honorine, puis celui de ces trois personnes à la basilique de Nice, et la tentative d'assassinat sur ce prêtre orthodoxe à Lyon hier. Il y a les agressions verbales d'un président à un autre, d'une nation à l'autre. Il y a ces guerres et ces séismes, tant humains que géologiques, et la surenchère de chacun prenant position sur les événements actuels amplifiés par les réseaux sociaux. Il y a les polémiques sur tous les sujets de société, sans oublier la politique étrangère. Il y a cette violence omniprésente sur nos écrans et autour de nous. Il y a ces relations avec autrui contaminées par des réactions épidermiques, gangrénées par des égos surdimensionnés, le tout sur fond de pandémie de Covid, dont la deuxième vague semble être plus meurtrière que la première, fragilisant particulièrement le personnel soignant et qui nécessite ce reconfinement obligé qui génère une inquiétude économique justifiée. Mais au fond, la liste est beaucoup plus longue que cette énumération des derniers événements. Il y a tout ce dont les médias ne parlent pas, à savoir notre vie quotidienne, avec ses pesanteurs personnelles, conjugales, familiales et professionnelles. Il y a ces soucis de santé, ces inquiétudes médicales, ces incertitudes quant à une décision à prendre. Et puis, il y a cette solitude causée par ce chagrin d'avoir perdu ces derniers temps, un temps qui ne se mesure pas en fait, d'avoir perdu un être cher, et la douleur est là, à l'intérieur, lancinante, dont on sait qu'il va falloir vivre avec, mais on ne sait pas vraiment comment. Et il y a toutes ces tracasseries administratives consécutives à ces décès dont on peine à se sortir. Alors, je vous propose de prendre le temps de reposer nos vies avec cette parole contenue dans l'évangile de Matthieu, « Venez à moi qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » C'est une parole en quelque sorte à contre-courant, qui ressemble à un coup d'arrêt qui oblige à agir autrement, une parole à recevoir, pourquoi pas, en ce temps de confinement, comme un cadeau, une petite surprise inattendue. Venez à moi qui êtes fatigué et chargé et je vous donnerai le repos. Dans une autre traduction, on peut lire aussi « et je vous soulagerai ». Ce qui est extraordinaire avec les mots de la Bible, c'est qu'on peut toujours les prendre au sens propre comme au sens figuré. Lorsque nous entendons ces paroles, nous pouvons repérer déjà comment elles résonnent en nous et quelles images elles font surgir en cet instant. Et de là, nous pouvons personnellement identifier le ou les fardeaux que nous portons. Lorsqu'il prononce ces paroles, Jésus vient d'envoyer ses disciples en mission. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Prêchez, guérissez, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et un petit peu plus loin, Jésus ajoute, prenez mon joug, recevez mes instructions. C'est encore une autre traduction. Le repos dont parle Jésus semble bien étrange. Et si nous entrons dans le détail du texte, nous trouvons cette formulation avec ces deux verbes à l'impératif. Venez à moi. Et un peu plus loin, prenez mon joug. Nous n'aimons pas forcément ces impératifs qui renvoient à l'incontournable et à l'urgence d'une situation. Mais ces impératifs, avant d'être un ordre, sont d'abord une invitation. Venez à moi, dit Jésus. Il s'agit ici d'un mouvement à faire, d'un déplacement à effectuer. Ce déplacement oblige par conséquent à se décentrer. C'est une invitation à se décentrer de nous-mêmes, à ne plus porter le regard seulement sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur un espace plus ou moins restreint, mais au contraire à porter notre regard au loin, élargir notre ligne d'horizon et porter notre attention dans la foi qui est la nôtre, sur un homme nommé Jésus. Et lorsque nous sommes plongés au cœur du quotidien, agressés par les soucis de tous ordres, nous n'avons pas forcément la possibilité de prendre le recul nécessaire pour analyser la situation qui nous préoccupe. Et au cœur des événements douloureux de notre existence, comme le deuil d'un proche, il arrive que la relation avec autrui soit mise à mal, abîmée, brisée, et il arrive que l'on ne sache plus comment la rétablir. Au fond, il en est de même avec Dieu lorsque nous ne savons plus quelle place il tient dans nos existences. Retentit alors à nos oreilles cette phrase peut-être oubliée. Venez à moi qui êtes fatigué et chargé, je vous soulagerai, je vous donnerai du repos. Cette invitation à tout déposer est un véritable réconfort dans notre contexte où il n'y a plus guère de répit pour personne. Et peut-être encore plus en ce moment, dans ce contexte de pandémie qui brouille les perspectives d'avenir et où les informations les plus effroyables les unes que les autres peuvent nous faire agir de façon désordonnée. Le second impératif, c'est celui-ci, « prenez mon joug ». Ce qui pourrait faire penser que nous allons ployer davantage. Prenez mon joug sur vous. Laissez-vous instruire par moi. Littéralement, apprenez de moi. Mettez-vous à mon école, pouvons-nous lire encore dans d'autres traductions. Alors que nous sommes invités à déposer notre fardeau, voilà qu'il faut prendre le joug. Et si nous entendons ce mot d'une façon négative, nous avons bien raison. Le joug n'est-il pas justement synonyme d'esclavage ou de servitude ? Car tout de même, le joug, C'est la pièce de bois qui sert à l'attelage des bœufs. Cela n'a rien de très réjouissant. Et si j'insiste un peu, on retrouve la racine du mot « joue » dans le mot « conjugal ». Littéralement, la vie conjugale, cela veut dire « porter le joug ensemble ». Alors, si on s'arrête à cette compréhension des choses, j'ai peur que ce ne soit pas plus épanouissant. Dans les textes que nous travaillons et que nous méditons, il y a toujours ces problèmes de traduction. Comment rester fidèle au texte original ? C'est si facile de se tromper. Et pourtant, il faut se lancer, se risquer. Alors on cherche, on creuse. Et le mot « joug » en grec désigne une relation en vérité qui existe entre un maître et un serviteur, autrement dit entre deux personnes de classes sociales différentes. Et cette relation se noue dans une sagesse et une réflexion authentique, du moins en théorie, car c'est souvent plus difficile à vivre concrètement. Mais ce qui vaut pour deux personnes de classes sociales différentes vaut aussi pour deux personnes de cultures différentes, de races différentes, de sexualités différentes, de religions différentes, de positions théologiques différentes. Porter le joug ensemble, c'est avoir une relation vraie avec l'autre, tout en prenant en compte les difficultés qu'il éprouve dans le moment présent. C'est parler, discuter, s'affronter aussi, peut-être, mais aussi réconforter, éclaircir, prendre du recul pour une meilleure décision, une meilleure orientation. Et il me semble que dans le contexte brouillé et trouble qu'est le nôtre, c'est garder à la fois la tête froide, mais le cœur au chaud. Ce que Jésus cherche à dire à ses disciples et à ceux qui l'entourent et à nous, par voie de conséquence, c'est ceci. Déposez à mes pieds vos propres fardeaux et portez à la place quelque chose d'autre qui vient de moi, quelque chose qui sera plus léger que ce que vous êtes en train de porter. Au fond, c'est un nouvel enseignement de vie qui laisse la place à la réflexion, au recul et au discernement. Mais en même temps, il ne s'agirait pas de faire un contresens de ces versets dans une compréhension complaisante. Il ne faudrait pas les sortir du contexte dans lequel ils ont été écrits. Et à l'époque de Jésus, il s'agit du contexte de la Palestine du 1er siècle, cette époque où la loi de Moïse était analysée, interprétée méticuleusement par quelques spécialistes, scribes, docteurs de la loi et prêtres. Et ceci en imposait les nombreux préceptes au peuple dans un souci de fidélité intègre et identitaire dans un pays occupé par les Romains. Mais la foi juive ne consistait pas uniquement dans cette observance et dans ces prescriptions légales. Et Jésus, qui est proche du peuple, de ses petits-enfants, entre guillemets, qu'il oppose aux sages et aux savants de la religion, savait combien cela pesait sur les gens. En fait, ce que Jésus dénoncera tout au long de son ministère, ce n'est pas la loi, mais c'est le légalisme, le fait de juger chaque personne et chaque situation uniquement en fonction de la loi religieuse au premier degré, le fait d'imposer aux gens de lourds fardeaux sans avoir, pour certains en tout cas, l'intention de les appliquer à soi-même. Bref, le fait de faire de la loi une sorte d'idole. Alors tout cela, nous le savons bien, et nous y sommes particulièrement sensibles en tant qu'enfants de la réforme protestante. La loi ne précède pas l'amour de Dieu. Il n'est plus question de faire des choses pour gagner l'amour de Dieu ou l'honneur des hommes. Mais il s'agit d'abord de s'ouvrir à l'amour de Dieu et d'en vivre pleinement, librement et dans cet esprit de joie et de plénitude, de liberté. Trouver le chemin qui répond à la volonté de Dieu. Et trouver ce chemin passe par des périodes de tâtonnement. Alors le repos dont parle Jésus, c'est la grâce de Dieu promise à tous ceux qui s'approchent de lui en confiance, gratuitement, comme des enfants. Aux yeux de Dieu, si je puis dire, il n'y a rien à faire, rien à prouver, seulement à être, ou en tout cas essayer d'être ce que nous avons appris, compris de ses commandements. Je garderai cette expression, cette traduction, « mettez-vous à mon école ». Littéralement, « laissez-vous instruire par moi ». Et c'est bel et bien l'image de l'enseignant qui apparaît ici. Je voudrais vous rendre attentif à cette formulation particulière. Il ne dit pas « laissez-moi vous instruire » comme quelqu'un qui détiendrait un savoir, mais il dit « laissez-vous instruire par moi ». L'enseignant ici est un pédagogue. C'est un partage d'expérience. Jésus ne se contente pas de transmettre son savoir. Il se place en exemple de ce qu'il enseigne. Et en même temps qu'il enseigne, Jésus apprend tout autant sur lui. Et bien souvent, il sera poussé dans ses retranchements. Et il devra adapter son enseignement aux personnes qu'il rencontre. Au fond, nous ne cessons d'apprendre. Et dans la foi qui est la nôtre, nous avons encore et toujours à apprendre de Jésus lui-même. Dans notre vie de foi, dans nos engagements, dans notre construction personnelle, notre maturité et aussi dans notre témoignage. Nous avons tout à apprendre sur la relation authentique avec l'autre et la Bible nous en fournit des exemples multiples. Jésus ne cesse d'alléger les relations avec l'autre et de l'autre avec Dieu. Je pense entre autres à la femme adultère libérée de sa faute, à Lazare libéré des liens de la mort, à Jaïrus libéré du chagrin de la mort de sa fille, à la femme hémorragique libérée du poids de la honte. Si finalement nous avons tout à apprendre de Jésus pour notre vie, cela nous renvoie à nous-mêmes et force est de constater que ce que nous savons humainement parlant n'est pas suffisant. Et si nous prenons le temps de reconnaître que nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes, cela nous place dans la même situation que les enfants qui attendent tout de leurs parents. Mais cette constatation ne doit pas nous effrayer. Elle nous renvoie en toute sérénité au début de ce texte de l'Évangile qui débute par ces mots. Père, je te loue de ce que tu arrives à cacher ces choses aux sages et aux intelligents, ou aux savants et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Alors, tout au long de son ministère, Jésus n'aura de cesse de s'adresser aux enfants. Il se tournera vers les petits dans tous les domaines. Il s'approchera de ceux qui souffrent, quel que soit le nom de leur souffrance, de ceux épris de liberté, de ceux qui auront faim et soif de justice, mais aussi de paix et de douceur. Il n'aura de cesse de rencontrer les estropiés de la vie, les aveugles et les paralysés de l'existence, les malades d'amour et d'affection, les humiliés et les offensés mis au banc de la société. Et chacun à notre manière, nous faisons partie de ces petits. Jésus est apparu pour témoigner en parole et en acte qu'une relation plus simple était possible entre Dieu et l'être humain. Il est venu apporter une parole libératrice qui rétablit l'être humain dans sa dignité, qui l'aide à se relever s'il est à terre, à avancer s'il ne peut plus marcher, à aimer de nouveau si la haine le ronge, à pardonner si la rancune est tenace. C'est une école difficile, exigeante, mais constructive. Et c'est sûrement dans les derniers mots de ces versets que nous trouvons la nouveauté de la parole « bonne nouvelle ». Mon joug est facile et mon fardeau léger. En quoi le joug du Christ est-il facile ? En quoi son fardeau est-il léger ? Son exemple ne le conduira-t-il pas jusqu'à la mort ? Alors ceci est une autre question, mais une question quand même. Mais au fond, c'est notre vocation humaine de mourir. C'est d'ailleurs ce à quoi on reconnaît notre humanité. Ce qui va être important, c'est la façon dont nous allons vivre avant notre mort. Et une proposition nous est faite avec le texte d'aujourd'hui. Dans la démarche de foi qui est la nôtre, chacun est invité à s'abandonner en confiance, ce qui est d'ailleurs une des définitions de la foi, tout en reconnaissant sa propre vulnérabilité, sans pour autant en avoir peur. Nous ne pourrons faire face à ce qui nous entoure que si nous acceptons à la fois d'être consolés et consolidés. Venez à moi, les fatigués de ce monde, les déçus de la vie, mais aussi ceux qui sont écrasés par leur chagrin, ceux qui sont accablés de culpabilité, ceux qui sont vidés de tout espoir. Venez aussi les infirmes de la foi et de l'amour, et je vous donnerai le repos. Nous sommes invités à faire ce mouvement vers lui en nous souvenant tout simplement que notre intégrité est préservée. Car celui qui nous appelle est doux et humble de cœur. Son joug est facile et son fardeau léger, simplement parce qu'il est avant tout respectueux de nos manières d'avancer, puisqu'il a choisi d'avancer au même rythme et au même pas que nous, même si l'on se trompe. Il est d'une patience infinie. Il sait que cela prendra du temps, peut-être même toute une vie. Mais ce qu'il veut pour chacun et chacune de nous, il veut simplement que nous croyions que cela est possible, parce qu'il veut qu'aucun cheveu de notre tête ne soit perdu. Amen. dans le recueil Louanges et prières. Je vous invite à prendre maintenant le numéro 318. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4 et je vous invite à vous lever.
Bonjour à vous. Au nom du Conseil presbytéral, également au nom de l'entraide, puisqu'aujourd'hui, vous savez que la collecte, comme premier dimanche du mois, c'est toujours l'entraide, nous vous remercions d'être là, d'avoir bravé le virus et les attentats. Je remercie bien entendu nos pasteurs, Aurélien, notre organiste, qui a tout de suite dit qu'il viendrait, et également le commissariat, parce qu'on n'y pense pas, mais commissariat beaucoup veillé sur nous aujourd'hui. Et j'espère qu'ils veulent continuer et qu'ils font tout aussi, parce que c'est très compliqué de garder les lieux de culte ouverts en ce moment. Donc je pense qu'il faut le souligner, parce qu'on ne le voit jamais, ça. Les gens de la République, les serviteurs de l'État qui sont derrière nous. Donc merci à eux. Toutes les activités de la maison presbytérale sont arrêtées, vous vous en doutez. La vente de l'entraide est annulée. C'est un grand moment de convivialité que nous ne pourrons pas faire cette année. Une grande perte aussi de financement pour l'entraide. On se rattrapera pour 2021. On a fait un point avec le trésorier. S'agissant de l'entraide, c'est toujours un an à l'avance, les fonds. Donc on se débrouillera en 2021 pour rattraper pour l'entraide. Sur le reste, on va s'organiser. Nous avons, j'allais dire, l'expérience du dernier confinement avec les pasteurs, avec l'équipe précédente. Le plus difficile, vraiment le plus difficile, c'est de garder le contact et de ne laisser absolument personne isolé ou se sentir dans l'isolement. Parce qu'on peut être accompagné, même dans le joug conjugal, et on peut se sentir seul. Donc, c'est vraiment important que nous puissions avoir vos coordonnées, notamment vos téléphones. Nos pasteurs sont là pour vous appeler si vous le souhaitez. Elles peuvent vous parler, elles y passeront le temps qu'il faudra. Également les membres de l'entraide du Conseil presbytéral. Donc, nous avons Juliette, Caroline, Magali, levez la main, pour prendre vos coordonnées si vous ne les avez pas. Souvent, vous pensez qu'on les a, mais on ne les a pas forcément. Donc, si vous recevez la feuille rose, c'est qu'on les a, ça c'est sûr. Si vous êtes donateur, on les a. Les autres, c'est moins sûr. Donc, c'est important de nous le dire. D'ores et déjà, ce qu'on peut vous annoncer, c'est qu'on va maintenir la lettre financière, l'information financière, je fais la liaison avec les donateurs, et également la feuille rose. Nous allons maintenir la feuille rose. Certains d'entre vous se sont déjà proposés, je les remercie, pour pouvoir qu'on les mette sous pli, parce que ça va être beaucoup de boulot de la rédiger, mais également de l'envoyer. Mais on va essayer de maintenir ces deux choses. Et le reste, ça sera en fonction de vos envies et aussi de l'état de nos pasteurs, parce qu'on ne travaille pas sur commande dans l'Église. Donc c'est important de s'en souvenir. Également, nous avons un culte en direct. Pour information, nous sommes montés jusqu'à 1150 connexions. 1150 connexions. Donc, je fais coucou à la caméra. Pareil, donnez-nous vos coordonnées. Vous avez nos coordonnées sur le site de l'oratoire. N'hésitez pas à nous donner vos coordonnées et nous faire part de vos besoins, envies, et surtout de nous faire part à l'entraide et nous-mêmes, qui est dans le besoin. Voilà. Pour terminer quand même sur une note d'humour, parce que c'est les réseaux sociaux, quand on se connecte, il y a des chats, des commentaires. Il y a un jeune qui a commenté « Une femme pasteur, lol !» Ce qui veut dire « mort de rire ». Donc en ce jour un peu compliqué sur la mort, je voulais juste vous faire part et je fais coucou à Léon qui nous a dit « Une femme pasteur, mort de rire ». Le temps de l'offrande maintenant pour l'entraide.
Nous vous invitons à la prière. Dieu notre Père, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour la joie que nous avons à offrir. Accepte ce que nous t'apportons comme signe de notre engagement à ton service. Ô Dieu de toute consolation, béni sois-tu. Tu nous consoles dans nos afflictions. Et par cette consolation, tu nous rends capables de consoler à notre tour. Nous te confions les personnes en détresse, vulnérables, démunies, victimes de violences en tout genre. Entoure-les de ta bienveillance. Mets sur leur chemin des frères et des sœurs en humanité, disponibles, capables de leur apporter un encouragement pour les aider à traverser les épreuves. Nous te confions les puissants, les responsables politiques. Rends-les attentifs et efficaces pour soulager la misère humaine. Conduis chaque chrétien, chaque citoyen à exercer sa responsabilité pour sauvegarder les libertés de nos fragiles démocraties. Nous te confions maintenant toutes les familles endeuillées cette année par la mort d'un proche, en particulier les familles de
Jacques Marie,
Monique Durleman,
Janine Roum,
Rémi Stricker,
Sébastien Boissé,
Bernard Cassan,
Cyril Monod,
Laurie Reinhard,
Raymonde Arbeau,
Francine Vicam,
Daniel Cuvier,
Laurent de la Baumelle,
Henri Bauer,
Françoise Cotineau,
Hervé Bottin,
Christian Perron,
Samuel Djanga Kondo,
André Hermine Nougaret,
Francine Hoffmann,
Claude Évrard,
Jean-Marc Nathalie,
René Sim Kemko,
Marianne Plichet-Bugner,
Francine Bénard,
Ben Harold Ngua Fankem,
Bernard Cotteret,
Pierre Delmas,
Marie-Christine Mazir,
Robert Chabal,
Claudine Dumas-Dreyfus,
Denis Rakoto-Arijimi,
Henriette Lévis,
Odile Stampa-Gounel-Pontanel,
Éric Lorsignol
et Micheline Paris,
Mathias Meurer,
Janine
Kechichian,
Pierre Gardin,
Madeleine Déménard,
Michel Leplay.
Nous n'oublions pas la famille de Samuel Paty, les lycéens de Conflans-Sainte-Honorine, mais aussi les familles des trois victimes tuées dans la basilique de Nice, les familles endeuillées au Liban, en Arménie, au Cameroun, en Turquie, ou sur tout lieu de guerre, d'attentats, de catastrophes, d'intempéries. Nous pensons à nos frères et sœurs de l'Église catholique et orthodoxe. Et nous vous invitons à vous lever Et nous dirons, dans une foi commune, mais aussi dans un amour commun, cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Et recevons la bénédiction qui vient du Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen. Nous vous souhaitons un très beau dimanche et nous vous invitons surtout à laisser les cantiques sur place. Nous les rangerons après.
Et ne pas stationner devant le temple. Et prière de ne pas stationner en groupe devant le temple, voilà, pour éviter tout problème et sanitaire et de sécurité. Merci à vous et gardez le cœur joyeux malgré tout pour que nous soyons ensemble en communion autrement. Par les réseaux sociaux, par le fil WhatsApp, par le site internet, nous allons avec Agnès être avec vous sans cesse.